8h57. Émile est là ce matin, bien sûr, pour faire un coup de chapeau aux citoyens qui relèvent des défis de transition écologique. Et je pensais à toi ce matin, on a eu pas mal de chroniques sur, justement, l'auto, les déplacements, le transport en commun.
Le recyclage du verre aussi.
Aussi, le verre. On avait...
Finalement.
Mais c'est un débat intéressant parce que est-ce qu'on va vers la consigne pour les bouteilles? Mm. Est-ce qu'on va vers le recyclage par le bac? Il y a comme deux écoles vraiment de pensée là-dessus. Puis, en fait, on verra bien là, si la technologie permet de vraiment tout recycler. Mais je reviens au transport parce que là, l'étude hier de Statistique Canada qui montre que les gens, le nombre de personnes qui passent plus d'une heure pour se rendre au travail.
Dans la voiture,
oui. C'est en croissance, là. Assez important.
Moi, là-dessus, je n'ai pas de connaissances approfondies là-dedans, mais des fois, je me demande si le fait qu'on vend des voitures de plus en plus grosses, de plus en plus confortables, puis qui deviennent un peu des carapaces, ça ne devient pas une extension de la maison, en fait. On a besoin d'une voiture qui est un peu le prolongement de son salon parce qu'on sait qu'on va passer beaucoup de temps dedans.
On va être confiné dedans,
oui. Oui, je sais, en fait, ça, je sais pas.
Alors, parle-moi de ce média que tu as découvert.
Oui, en fait, il était connu avant aujourd'hui, mais je pense qu'il vaut la peine d'être découvert. C'est un média indépendant sur le web qui existe depuis 2017 qui s'appelle 1.5 et c'est un organisme à but non lucratif, c'est indépendant, il n'y a pas de pub là-dessus, c'est non partisan, c'est pas militant, c'est un truc qui est subventionné, mais ils publient ce qu'ils veulent, ils font, eux, bon, c'est du contenu scientifique très bien vulgarisé, vraiment facile à lire, le fun, un peu comme ce que je fais chez vous, mais de façon encore plus poussée, là, vraiment. Qui détaille des initiatives québécoises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, autant chez les entreprises, chez les organismes publics, mais aussi qui donne des clés pour des gestes individuels. Mais c'est fait de façon... Tu sais, ils publient une infolette à peu près aux deux semaines. Pis c'est vraiment très bien fait. Ça vaut la peine d'aller le regarder parce que si, comme pour nourrir une réflexion, ça me semble être un bon point de départ. Et parfois aussi, quand on est un petit peu mêlé, quand on lit un article dans le journal, des fois, il y a des raccourcis, des fois, on est un peu mélangé. Là, ça vaut la peine parce que ça explique bien les affaires, puis il y a des liens. C'est très pédagogique, de façon pas... C'est pas chiant du tout. Et je voulais vous en parler aujourd'hui parce que leur plus récent dossier, j'aime bien leur slogan, c'est le média qui détend l'atmosphère. Parce que c'est vrai que... Le débat autour de l'environnement est un peu idéologique, souvent. Puis des fois, pour arriver à réfléchir, c'est difficile, ça nous prend juste des fois des clés. Eux, ils en donnent pas mal. Et cette semaine, ils s'attaquent à un dossier qui est un enjeu de taille, en fait. Est-ce que la lutte au changement climatique peut aller de pair avec l'économie, une économie mis en santé. Et on a souvent l'impression qu'il faut choisir entre les deux. Et vous avez peut-être un collègue ou un beau-frère qui vous fait parfois peur en vous disant « Ah, les maudits écolos, ils vont faire s'effondrer l'économie, on n'aura plus de job, on va retourner à l'âge de pierre. » Alors, si vous voulez lui répondre de façon rationnelle à ce beau-frère ou ce collègue, ben, les quatre articles du dossier de 1.5 là-dessus explorent en fait comment économie et environnement peuvent aller ensemble. Notamment, ils recensent des études, résument les faits saillants de ces études-là et proposent des liens vers l'étude elle-même. Notamment, une étude internationale qui a été faite par la Commission mondiale sur l'économie et le climat, la New Climate Economy. Et cette étude-là suggère qu'une économie sobre en carbone pourrait entraîner des retombées économique de 26 000 milliards de dollars d'ici 2030. Oui, il y a des jobs qui vont disparaître. Ils disent, OK, peut-être aux alentours de 6 millions de jobs qui n'existeront plus si on lâche les hydrocarbures tranquillement, mais on va sans doute voir apparaître plus de 24 millions de nouveaux emplois. Ils donnent l'exemple, ils disent, OK, au Bangladesh. Ça, c'est un truc qui est arrivé. Il y a des familles dont l'électricité, la source principale d'électricité, c'était du charbon. Ils sont passés au panneau solaire. Donc, évidemment, bon, ça a créé des jobs, l'installation de ces panneaux solaires-là. Ça a permis à ces familles-là d'épargner en frais d'électricité plus de 400 millions de dollars. Et ça a créé 115 000 nouvelles jobs pour l'installation et l'entretien des panneaux. Il y a aussi des études qui sont recensées, notamment l'étude de l'Institut du Québec. C'est OK, nous ici, qu'est-ce qu'une économie sobre en carbone peut apporter au Québec? Est-ce qu'on est bien positionné? La réponse, c'est oui, selon l'article, parce que, à cause de l'hydroélectricité ici, ça peut être très attirant pour des entreprises d'ailleurs, notamment dans l'aluminium, tout ça, qui disent, OK, si nous, on veut continuer à poursuivre nos activités, mais à ce que, sur le plan environnemental, ça soit beaucoup moins, ça ait moins d'impact. Ici, c'est particulièrement très attrayant. On est bien positionné à cause de ça. On a aussi une main-d'œuvre assez qualifiée dans ce secteur-là. Et aussi, il y a des opportunités d'investissement majeures sur le plan mondial. Et on dit que d'ici 2020, là, en ce moment, les investissements verts, là, c'est 250 milliards de dollars à l'échelle de la planète, mais ça pourrait être multiplié par 8 d'ici l'année prochaine.
Mais j'imagine de toute façon que la croissance est quand même assez importante depuis les dernières années, là.
Oui, c'est le cas, mais ça va en s'accélérant. Si en même temps, ça dépend aussi quel joueur va y aller en premier. On sait qu'il y a des pays ailleurs, c'est le cas de la Chine notamment, qui sautent sur des opportunités comme ça et qui réussissent à être de très, très bons joueurs dans l'échiquier mondial. Fait que les opportunités, est-ce que nous, on peut les saisir ou pas? Ça, je pense qu'on a les moyens de le faire. Est-ce qu'on est bien passé pour le faire maintenant? Je ne le sais pas. Mais l'article suggère que oui. Par contre, on a des faiblesses aussi. On est encore, on a tendance à gaspiller notre énergie. On n'est pas très efficace. Parce qu'elle coûte pas cher, j'imagine. Puis là, avant de bâtir des nouveaux barrages, on pourrait être plus efficace sur le plan énergétique afin d'utiliser cette énergie-là mieux. Et aussi, une tendance qu'on a ici, c'est que il y a beaucoup d'innovations québécoises qui ne trouvent pas preneur chez les organismes publics et parapublics et qui doivent aller vendre leur expertise ailleurs.
Je peux te nommer 2-3 cas que j'ai en tête facilement.
Puis alors que en Finlande, par exemple, eux, ils se font un devoir de dire non, l'organisme public va être un acheteur. Oui, ça coûte plus cher un peu, tant mieux, mais on devient un peu le laboratoire pour faire la preuve que la technologie, elle fonctionne. Mais aussi, dans le dossier, vous allez trouver un paquet d'exemples d'entreprises qui ont des pratiques, ma foi, assez ingénieuses. Je vous en nomme une, mais il y en a plein, là, qui sont recensés, notamment le groupe Belmar à Trois-Rivières. Je trouve ça le fun et ce qu'ils font. Eux autres, ils récupèrent des résidus de construction, de rénovation puis de démolition. Ils les concassent, ils les broient, ils les tamisent, puis ils recommencent. Ils font, par exemple, des nouveaux panneaux de gypse à partir de retards de gypse. Fait qu'eux autres, ils disent, nous, on a réussi à sauver la vie de 726 000 arbres l'année dernière. C'est 726 000 arbres qui restent debout puis qui continuent à faire leur job de captation de carbone, ce qui est quand même positif. Et ils parlent aussi de nouvelles qu'on appelle des jeunes pousses, des start-up, là, qui, notamment une qui s'appelle Impact Finance, je ne savais pas c'était quoi l'économie d'impact jusqu'à ce que je lis cet article. C'est, mettons que j'achète quelque chose, un café, un chandail, peu importe, j'aimerais ça, moi, au-delà du prix, savoir quel impact ça a là, sur la vie du monde qui l'ont fait, puis sur l'environnement autour dans ce pays-là. Et des fois, c'est difficile, puis on se casse la tête comme consommateur à essayer de dire, non, mais là, lequel qui est le meilleur entre tel café, puis tel, bon. Et là, c'est une application qui va être mise en circulation très bientôt et qui te permet à proximité de toi, selon le service que tu veux, savoir okay, qu'est-ce que tu peux acheter pour que ce soit le plus, que ça corresponde à tes valeurs, puis que ça être certain que ça a un impact positif sur l'environnement ou la société où ce produit-là a été fabriqué. Et je vous explique en terminant pourquoi le média s'appelle 1.5, parce que...
J'allais te poser la question.
Ben oui, c'est ça, c'est pour le 1.5 degrés Celsius, qui est l'objectif que les pays se sont donné lors de l'accord de Paris en 2015. Donc, on va essayer, tu sais, la planète, elle va se réchauffer, mais on va essayer qu'elle se réchauffe pas plus qu'à 1,5 degrés Celsius, qui est un objectif très ambitieux, paraît-il, mais qui limiterait les impacts, du moins, des changements climatiques sur nos vies. Si on va au-delà de ça, là, pour l'instant, là, on n'agit pas assez vite. On aurait comme une dizaine d'années, normalement, pour opérer un vrai virage. Si on va au-delà de ça, c'est le niveau des mers qui monte, c'est des coins du monde qui sont plus habitables, c'est des grosses vagues migratoires de réfugiés climatiques qui vont débarquer ici, mais des migrations, pas juste de monde, là, d'insectes aussi, parce que s'il fait plus chaud au sud, puis on est bien plus au nord, on va recevoir des insectes qui portent des maladies contre lesquelles on n'est pas protégé. Alors, donc je vous invite à aller voir ça, 1.5, là, écrit en lettres, unpointcinq.ca. Il y a des bons outils là-dedans. Puis sinon, si vous êtes prof, là, je trouve que pour des jeunes ados, là, c'est un excellent terrain de réflexion.
Merci Émile, on se retrouve vendredi, 9h05.